Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Les dépassements budgétaires n'est ni un acte de détournement, ni un acte de mauvaise gestion, a déclaré Jules Alinghetti, inspecteur général des finances. Il s'exprimait ainsi le samedi 23 octobre lors d'une conférence de presse conjointement animée avec le ministre des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Répondant aux questions des journalistes, Jules Alinghetti a ajouté que les dépassements budgétaires arrivent souvent par ce qu'il appelle les paiements en procédure d'urgence. En réaction à cette déclaration de l'IGF, l'Observatoire de la dépense publique aux dépenses sigle a, dans un communiqué, rappelé que depuis le mois d'août 2021, la présidence de la République engage des dépenses sans disponibilité des crédits. Cette organisation citoyenne considère que l'IGF Alinghetti fait maintenant l'apologie de la mésgestion des finances publiques et couvre la gabegie financière à la présidence devenue le symbole des dépassements budgétaires. Que pensez-vous de la déclaration de l'inspecteur général des finances sur les dépassements budgétaires? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons le professeur Jean-Claude Tchilumbaï, le député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, professeur Jean-Claude Tchilumbaï.
Bonsoir, Guy Maté.
Valérie Madianga, il est chargé de communication de l'Observatoire de la dépense publique aux dépenses sigles. Bonsoir, monsieur Valérie Madianga.
Bonsoir, monsieur les journalistes.
Et maître Willy Wenga, analyste, il est avocat près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Bonsoir, maître Willy Wenga.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir, bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous le disions au sommaire, le dépassement budgétaire n'est ni un acte de détournement, ni un acte de mauvaise gestion. Au propos de Jules Alinghetti, inspecteur général des finances, il s'exprimait ainsi samedi 23 octobre dernier lors d'une conférence de presse conjointement animée avec le ministre des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Répondant aux questions des journalistes, Jules Alinghetti a ajouté que les dépassements budgétaires arrivent souvent par ce qu'il appelle les paiements en procédure d'urgence. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Je voudrais vraiment que les gens retiennent une fois pour toutes que le dépassement budgétaire n'est ni un acte de détournement, ni un acte de mauvaise gestion. Mais comment on arrive à un dépassement budgétaire? La loi a prévu que toute dépense doit passer par un circuit. Le circuit, c'est le gestionnaire, celui qui a besoin d'effectuer la dépense. Commence par engager la dépense. On arrive au budget, le budget liquide. La liquidation consiste à vérifier si la dépense que vous demandez qu'on puisse faire a un crédit disponible. Si le crédit n'existe pas, le budget ne laisse pas passer la dépense. Ou le budget va procéder au réaménagement. Alors, lorsque le budget autorise par la liquidation, le ministre des Finances paye. Les dépassements budgétaires nous arrivent avec ce que nous appelons en finances publiques les paiements en procédure d'urgence. Mais ce n'est pas un détournement.
Professeur Jean-Claude Tchilumbaï, vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. On va commencer par définir ces concepts. Hein. Qu'est-ce que l'on peut retenir, en des termes simples, par dépassement budgétaire?
Le dépassement budgétaire, c'est effectivement que une institution ou un service public ou un service émergent du budget de l'État va au-delà des prévisions budgétaires telles qu'initialement adoptées, et que ce dépassement peut intervenir selon que les circonstances l'imposent. Les circonstances peuvent être soit de l'inflation, soit l'avènement des charges nouvelles, ou alors d'événements spontanés qui n'ont pas été pris en considération lors de l'élaboration du budget de l'État. Et dans ce contexte, une institution ou un service de l'État peut dépasser ses prévisions budgétaires.
Voilà, le dépassement budgétaire n'est ni un acte de détournement, ni un acte de mauvaise gestion, affirme Jules Alinghetti. Et pourtant, professeur Tchilumbaï, quand on parle du dépassement budgétaire, tout de suite, on soupçonne soit un détournement possible, soit des actes illicites dans la gestion des finances publiques. Et si ce n'est pas un éventuel détournement, et les ressources qui ont été utilisées pour combler ces déficits, les déficits devant lesquels la personne s'est trouvée, ces ressources-là ne sont-elles pas issues d'un détournement?
Non, je dis c'est vrai qu'une institution peut par mauvaise gestion, mauvaise allocation des finances publiques être amenée à cette situation-là, mais ce n'est pas automatique. Lorsque vous prenez l'institution comme la présidence de la République et que vous prenez l'ordonnance d'organisation et fonctionnement de la présidence de la République de 2009, vous verrez par exemple qu'il est prévu la possibilité et la nécessité pour l'institution présidente de la République éventuellement de créer des services spécialisés lorsque le besoin l'impose, selon que le président de la République doit accomplir les tâches constitutionnelles qui sont les siennes. Et cette réalité intervient souvent dans des domaines régaliens, et des domaines de défense nationale, des domaines de diplomatie, et lorsqu'il y a des contingences ainsi de sécurité publique ou d'intérêt majeur de l'État. Et le président de la République peut arriver à créer, comme il est prévu, des services spécialisés qui émargent donc du budget de l'État, le budget de la présidence de la République. Il y a des situations nouvelles comme la naissance des obligations et des missions qui peuvent être effectuées à l'étranger, des émissaires qui peuvent aller dans des circonstances qui n'ont pas été exceptionnellement prévues lors de l'adoption du budget. Et cela doit émerger de l'institution présidence de la République. Ça ne signifie pas que ça s'appelle détournement lorsque, par l'entremise de l'institution présidente de la République, dans ses missions, par exemple, d'arbitre du bon fonctionnement des institutions, lorsqu'on convoque un dialogue, lorsqu'on convoque des négociations ou lorsqu'il y a des consultations, c'est des faits qui n'ont pas été prévus, qui ne peuvent que consommer de l'argent au-delà des prescriptions, au-delà des prévisions budgétaires, ça ne s'appelle pas détournement non plus.
Oui, professeur, je ne suis pas spécialiste en finances publiques, mais il est dit que dans tout budget, il y a des ressources qu'on considère comme étant des imprévus. Et je pense que ce sont ces ressources-là auxquelles on recourt justement pour solutionner les problèmes auxquels vous venez de faire allusion. Lorsqu'on crée des services spécialisés dont les budgets n'avaient pas été prévus, on peut toujours recourir, n'est-ce pas, à ces ressources considérées comme étant des imprévus.
Non, dites-vous, c'est comme je l'ai toujours rappelé, aucune légitimité ne conditionne la survie de l'État. Lorsque vous voyez ces imprévus, elles sont imprévues pour toutes les institutions de la République, et que des événements imprévus là sont parfois des événements d'une considération qui n'est pas de la hauteur de ces imprévus, et que l'on ne ferait pas endormir un État et empêcher que le chef de l'État joue son rôle de garant de bon fonctionnement des institutions, par exemple, ou d'arbitre de conflits institutionnels lorsqu'il le faut. Et vous verrez souvent que les imprévus ne sont pas de la hauteur de couvrir ces besoins-là. Ce qui est le plus important cette fois-là, c'est plutôt la transparence dans l'allocation et dans la gestion de ces fonds, et qui doivent être retracés lors de la loi de reddition des comptes, parce que c'est à ce moment-là, effectivement, que le Parlement vérifie pour s'assurer que les dépassements ou les non-dépassements ou les départs de l'allocation des fonds étaient un détournement. Ce n'est pas du simple fait de constater qu'il y a dépassement budgétaire qu'on conclut ou qu'on en conclut à un détournement. Il faut attendre la loi de reddition des comptes.
Professeur, lorsque on se trouve devant une situation où on n'a plus assez de ressources alors qu'on a des besoins, n'est-ce pas, qui nécessitent beaucoup de ressources, et que tout de suite on se dit parce que les impératifs sont là et il faut aller puiser dans un autre secteur, et là vous allez puiser les ressources qui étaient destinées, n'est-ce pas, à d'autres projets, et vous les utilisez parce qu'il y a des impératifs qui vous poussent à les faire. Est-ce que cela ne s'appelle pas détournement?
Comme vous, par ailleurs, moi je ne suis pas un spécialiste des finances publiques, il faut l'avouer, mais dans l'exécution d'un budget, il y a toujours cela, que lorsqu'il y a des difficultés, qu'il y a des missions importantes, et surtout des missions régaliennes de l'État, que l'on recourt parfois à des comptes qui n'ont pas bougé pour couvrir les besoins de la survie de l'État. Je dis bien, ça ne s'appelle pas détournement. C'est effectivement au moment de la reddition des comptes que cette situation-là sera examiné pour vérifier s'il s'agissait d'un détournement ou pas. Pour le moment, l'État, lui, doit fonctionner. Les nouvelles institutions prévues par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'institution présidente de la République doivent fonctionner parce que c'est des institutions qui ne sont pas créées pour plaire aux individus, mais pour résoudre des problèmes évidents de notre peuple, mais aussi résoudre des questions essentielle de notre survie commune. Et cette fois-là, j'insiste sur le fait que ce n'est pas du simple fait qu'une ONG déclare qu'il s'agit d'un détournement, qu'on va accréditer qu'il s'agit d'un détournement. Les institutions d'appréciation de ce dépassement, des qualifications de ce dépassement, devront se prononcer au moment venu. Nous pensons qu'il faut leur laisser le temps de se prononcer afin qu'elles prennent une position claire qui serait de nature à édifier notre population par rapport à tout ce qui se raconte.
Oui, et professeur, pour éviter tout soupçon, pourquoi ne peut-on pas se tourner vers le Parlement qui est l'autorité budgétaire? C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve devant des urgences qui nécessitent qu'on puisse mettre en place des organes spécialisés qui n'étaient pas, n'est-ce pas, prévus dans les budgets, et pourquoi ne pas d'abord aller vers l'autorité budgétaire pour expliquer les bien fondés, n'est-ce pas, de l'initiative que l'on prend? Ça peut nous aider, n'est-ce pas, à éviter tout soupçon éventuel.
Mais là, vous sortez bien évidemment de la logique de séparation du pouvoir. Si c'est le Parlement qui doit apprécier quand et comment et pourquoi le chef de l'État doit créer une structure, une institution spécialisée ou un service spécialisé, conformément à l'article 3 de l'ordonnance d'organisation de son cabinet, doit aller demander l'autorisation au Parlement, c'est que il n'y a plus séparation de pouvoir. Ici, il est question de constater que le législateur ou sinon l'autorité réglementaire qui avait édicté cette ordonnance n'a pas limité le nombre de ces structures et c'était un espace qui avait été laissé pour permettre au chef d'État d'exercer avec une certaine flexibilité ses compétences constitutionnelles. Il faut lui permettre de le faire. Et aller demander au Parlement signifierait que désormais, le président de la République sera en mesure ou dans une situation où il irait demander éventuellement se justifier devant le Parlement alors que notre Constitution ne prévoit pas cette possibilité-là.
Vous avez évoqué l'ODEP hein, qui a réagi, n'est-ce pas, au propos de l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete. Et cette organisation considère l'IGF Alinguete comme faisant maintenant actuellement, n'est-ce pas, l'apologie de la mésgestion des finances publiques et couvre la gabegie financière à la présidence de la République, devenue, selon toujours cette organisation, le symbole de dépassement budgétaire.
Écoutez, l'IGF, en répondant à cette question précise, n'a pas eu pour prétention de défendre l'activité du chef de l'État, mais plutôt de réajuster la compréhension par rapport aux allégations qui sont parfois infondées, celles qui consistent à confondre dépassement et détournement. Et l'IGF ne s'est pas seulement arrêté au président de la République, c'est une explication générale pour toutes les institutions de la République qui peuvent se retrouver dans cette condition-là.
Il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Mbandaka, il dit « Maintenant, le peuple congolais comprend la vraie mission de l'IGF, c'est d'éliminer les adversaires politiques du régime en place. Comment vous réagissez à ce point de vue ?»
C'est une explication très simpliste que de dire que l'IGF aurait pour mission d'éliminer les acteurs politiques, alors que l'institution en tant que telle, lorsque elle prend position pour des explications qui sont d'ordre théorique comme celle-là, il n'est pas question de venir confondre cela à quelqu'un qui participe à l'action politique en tant que tel. Le service IGF, c'est un spécialiste de finances publiques. Et lorsque les gens ont besoin de comprendre pourquoi est-ce telle situation se passe comme ceci dans l'exécution du budget de l'État, elle ne peut que se prononcer là-dessus sans considération du fait que ça soit la situation personne du chef de l'État comme individu, mais plutôt de l'institution. Président de la République qui a cette structure et qui doit fonctionner comme il se doit.
Merci Valérie Madianga, vous êtes chargée des communications de l'Observatoire de la dépense publique ODEP en sigle. Je commence avec vous par cette réaction d'un auditeur, il s'appelle Diedoné Meya, et qui vous pose la question. Il dit « L'ODEP parle des gabegies et mégestions. Sur quelles lois s'appuie-t-il? Quelles sanctions prévoit cette loi ?» Monsieur Valérie Madianga, c'est l'auditeur Diedoné Meya.
Merci Guy Maté pour l'invitation. J'aimerais d'abord dire à notre auditeur que quand on parle du budget, le budget c'est une loi. Je fais référence à l'article 126 de la Constitution qui dit que les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat le votent, donc votent le projet de loi de finances dans les conditions prévues par la loi organique visée à l'article 124 de la Constitution. Donc, nous sommes en face d'une loi. Cette loi doit être respectée. Alors, pour élaborer cette loi, il y a toute une procédure. Il y a le cycle budgétaire. Et je viens de suivre l'honorable qui a fait référence qu'il semblerait que lorsque nous sommes au cours de l'année, on peut créer des services publics spécialisés et utiliser des fonds parce que ce sont des urgences annuelles, tout ça. Mais moi, je voudrais rappeler que les charges de l'État sont déterminées dans le budget de l'État, c'est-à-dire la loi de finances. Et dans la loi de finances, chaque service présente ses besoins annuels au cours de séances qu'on appelle les conférences budgétaires, qui sont organisées par le ministère ayant en charge le budget. Ce ministère demande à tous les services publics de dire qu'est-ce qu'ils vont faire au cours de l'année N plus 1. Actuellement, au cours de cette année, les conférences budgétaires se sont déroulées au mois d'août. Tous les services publics ont présenté leurs besoins. Alors, surtout les besoins en fonctionnement et en rémunération, mais aussi en termes des investissements. Au cours de l'année, nous constatons que dans l'exécution, certains services, nous sommes déjà au mois de septembre, ont même dépassé tout ce qu'on leur avait accordé comme budget, voté par l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Donc là, il y a déjà violation de l'article 38 de la loi relative aux finances publiques, qui dit clairement que les crédits budgétaires sont limitatifs et les dépenses sur les crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. C'est ce qui fait référence maintenant à l'article 129 de la LOFIP, la loi relative aux finances publiques, qui qualifie les dépassements budgétaires de faute de gestion et énumère même les aspects de la gestion budgétaire qui peuvent être qualifiés de faute de gestion. Hein, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la présidence, parce qu'on en parle trop. Vous prenez par exemple le ministère des Sports et Loisirs, qui est aujourd'hui en dépassement de 101%. Quelle est maintenant la conséquence avec ces dépassements budgétaires? Les conséquences sont que les investissements ne seront pas payés. Nous sommes au mois d'octobre. Si vous regardez la ligne de prévision linéaire, les dépenses en termes d'investissement sur ressources propres, nous sommes à 1,6%. Et pourtant, la présidence est en dépassement de 111%, pratiquement plus de 200 millions de dollars dépensés. Et l'investissement, nous ne sommes même pas 30 millions de dollars.
Valérie Madianga, comment vous répondez à Jules Alinguete lorsqu'il dit que les dépassements budgétaires nous arrivent avec ce que nous appelons en finances publiques les paiements en procédure d'urgence qui sont les paiements lorsqu'il y a extrême nécessité?
Non, mais les paiements, je suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que on fait des paiements en urgence lorsqu'il y a extrême nécessité. Quelles sont ces nécessités? C'est ça le contenu maintenant que nous devons définir en termes de procédures d'urgence. Qu'est-ce que nous devons retenir? On fait des procédures d'urgence même pour acheter un véhicule, même pour acheter du carburant, même s'il faut payer un billet d'avion. Vous savez, lorsqu'on fait la programmation budgétaire, tout est budgétisé, tout est là. Pourquoi ne pas suivre la procédure normale? Aujourd'hui, lorsque vous lisez les instructions relatives à l'exécution de la loi des finances, il est très bien dit que les urgences ne concernent que les calamités, les épidémies par exemple, les accidents mortels, ou bien la guerre. Nous sommes à l'Est, il y a la guerre, il y a la menace. Là au moins on peut voir ces dépassements. Et puis, en termes de calamités, les épidémies, et la ligne budgétaire est affectée au ministère ayant en charge des affaires humanitaires. C'est là où on doit voir en principe les dépassements budgétaires. Mais aujourd'hui, nous voyons les dépassements budgétaires où? C'est au niveau des fonctionnements. Par exemple, au niveau de la présidence, les dépassements budgétaires n'est pas lié à ce qu'on dit que c'est pour des besoins de création de d'autres services. Vous avez un personnel pléthore au niveau de la présidence. Venons au niveau de la primature. Vous avez un personnel pléthore pris en charge au niveau de la ligne personnel politique dans les cabinets du Premier ministre. C'est 606. Imaginez, au niveau de la présidence, c'est plus de 1000, et c'est environ 1018. Si vous descendez encore, vous regardez les lignes au niveau du Parlement, parce que les dépassements sont presque partout. Vous venez au niveau de l'Assemblée nationale, les bureaux de l'Assemblée nationale, les cabinets ont recruté au moins plus de 2000 personnels politiques. Et pourtant, au niveau de l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous avez des directions d'études qui peuvent faire le même travail que les agents qu'on a pratiquement recrutés. Donc pour nous, nous pensons que il y a double emploi, donc on crée le même service qui sont au niveau de l'administration publique et on augmente le budget des institutions Ce qui a pour conséquence, les investissements publics sont faiblement payés.
Valérie Ogena,
toutes les lignes.
Oui, vous l'avez dit, ça a des conséquences réelles sur les investissements publics. Mais Alinguet dit encore ici, il affirme que après chaque dépassement budgétaire, les missions de contrôle constate réellement que les fonds sortis du trésor public ont été réellement affectés pour des causes qui sont justes. Est-ce que cela ne peut pas justifier un dépassement budgétaire?
Je vais vous expliquer
pour des causes qui sont justes.
Comment ça se passe. Nous sommes là dans la procédure de régularisation des dépenses. Si par exemple il y a eu dépassement budgétaire dans les cas d'urgence, souvenez-vous de ce qui s'est passé lors du procès des 100 jours. Toutes les dépenses étaient exécutées en mode d'urgence. Le mode d'urgence aujourd'hui c'est limité comme je l'ai dit. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Vous avez par exemple la présidence qui construit une école construite par la présidence de la République. En principe la dépense devait être imputée au ministère de l'EPSP, c'est-à-dire l'enseignement. Mais la dépense exécutée par la présidence, ça crée maintenant un dépassement au niveau de la présidence. Lors de la régularisation, on prend cette dépense exécutée par la présidence, on vient imputer ça au ministère qui n'a vu ni l'argent, qui n'a même pas fait une programmation en termes de chronogramme, d'exécution, ainsi de suite, et on lui impute la dépense. On dit non, cette dépense doit vous imputer. Et au niveau de la présidence ou un autre service, le dépassement est pratiquement élagué. Mais en termes d'efficacité de cette dépense-là, est-ce que les services à qui on vient d'imputer la dépense peuvent être redevables vis-à-vis du Parlement, par exemple? Si, par exemple, il y a eu une mauvaise gestion, il y a eu des détournements, est-ce que le ministre de l'EPSP, à qui on vient d'imputer une dépense exécutée par la présidence, peut répondre de cette question-là avec efficacité, avec connaissance du dossier au niveau du Parlement? Non. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on puisse respecter la loi relative aux finances publiques.
Merci.
Qui détermine au moins les charges et les ressources disponibles à utiliser au cours de l'année. Si par exemple, les services estiment que, écoutez, au cours de l'année X, nous sommes en difficulté d'exécuter par rapport aux charges, il faut regarder aussi les recettes publiques, la programmation. On sollicite, la loi l'a dit, on sollicite un collectif budgétaire. Au niveau du Parlement, le Premier ministre va écrire avec des motivations avérées, recourir au niveau du Parlement, solliciter un collectif budgétaire. La loi le dit clairement.
Merci.
Avec des programmes et des projets qui doivent être exécutés au cours de l'année.
Merci.
Mais dans les cas échéants, on vient de déposer un collectif budgétaire maintenant qui n'est même pas débattu. Et quand on va débattre ça, est-ce qu'on va l'exécuter comment? Donc c'est ça le vrai problème. Donc je pouvais dire que chez nous, dans notre pays, le dépassement budgétaire est devenu un sport national. C'est devenu un sport national où chaque ministre, chaque gestionnaire peut maintenant utiliser les crédits budgétaires comme il veut. On est en train de fouler au pied la loi relative aux finances publiques. Regardez les nouveaux programmes avec le FMI. Le FMI insiste sur la crédibilité budgétaire, mais aussi sur le respect du circuit budgétaire. Éviter les modes de procédure d'urgence. C'est ce qui amène à ce que les plus pauvres ne puissent pas bénéficier des ressources disponibles et c'est seulement une catégorie de la population qui bénéficie des ressources qu'on mobilise, ainsi de suite. Donc
merci.
C'est ça les contrastes.
Merci. Maître Willy Wenga, vous êtes analyste, vous êtes avocat après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ici, il est question d'expliquer ces problèmes à la lumière de la loi. Les dépassements budgétaires conformément à la loi, est-il un détournement ou pas?
Merci beaucoup Guy Maté de m'avoir associé à ce débat. Je vais dire comme tout le monde que je ne suis pas spécialiste des finances publiques. Mais il y a quand même deux mots qui m'ont toujours intéressé en matière d'exécution budgétaire. C'est un budget excédentaire et un budget déficitaire. Lorsque les recettes dépassent les dépenses, on parle d'un budget excédentaire. Lorsque les dépenses dépassent les recettes, on parle d'un budget déficitaire. Mais la bonne gouvernance, la bonne gestion aimerait qu'un budget soit en équilibre. Quant à utiliser les mots lourds de détournement ou de mauvaise gestion, je laisse ça aux politiciens, je laisse ça à ceux-là qui ont eu la profondeur de jeter un coup d'œil sur le rapport ou le document ou ceux qui ont suivi directement l'inspecteur général des finances. Mais ce qu'il faut retenir, Guy Maté, c'est que lorsqu'il y a un dépassement budgétaire, cela veut dire que les dépenses sont au-delà du crédit prévu. Lorsqu'il y a un dépassement budgétaire, cela signifie que les dépenses ont été alimentées par les recettes, soit extra-budgétaires, soit des recettes venant des autres crédits. Et à ce moment-là, sur le plan social, il y a un problème, parce que les crédits d'une institution, le crédit d'un secteur, pourrait être utilisé pour couvrir les dépenses extraordinaires, parce que même les dépenses d'urgence doivent être prévues, et les recettes, les crédits pour couvrir ces dépenses doivent être bien déterminés à l'avance.
Maître Williwanga, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut parler des détournements, parce que vous reconnaissez que quand on est devant ces déficits-là, on est obligé de puiser dans d'autres secteurs, et puiser les ressources qui étaient, n'est-ce pas, affectées pour d'autres projets. Et vous qui êtes juriste, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça détournement parce que c'est de l'argent qui n'était pas prévu pour solutionner un besoin donné et il est maintenant utilisé pour un autre besoin?
Il y a un élément légal du détournement, c'est s'approprier le bien détourné ou accorder à un tiers un avantage illicite. Mais s'il venait à être prouvé que la dépense qui a constitué le dépassement budgétaire a été utilisée à bon escient pour autre chose, et seulement pour les intérêts de la gouvernance, pour l'intérêt de la République, je ne pense pas qu'il y ait lieu de parler de détournement. C'est lorsque une enquête s'avère donner comme résultat que les dépenses ayant fait dépasser le budget des dépenses n'ont pas été utilisées à bon escient ou ont été utilisées pour les dépenses personnelles, individuelles, ou pour les dépenses de prestige égoïste, à ce moment-là, on parlerait de détournement.
Et donc,
vous comprenez que la qualification de détournement ne doit pas être une qualification de bouche à oreille, doit être une qualification bien mesurée et étudiée par les organes et institutions bien prévus pour ça, et là, je parle de ministère public. Dans le débat, dans les échanges, dans les analyses, on peut juste regretter qu'il y ait ce dépassement, pour autant que ce dépassement pouvait être évité.
Oui, Maître Williwanga, si, comme vous le dites, à l'absence d'une enquête pouvant déterminer s'il y a eu détournement ou pas, on ne doit pas se permettre, n'est-ce pas, de se précipiter à affirmer qu'il s'agit d'un détournement. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que lorsqu'il y a, dépassement budgétaire, que cela serait les fruits d'une mauvaise gestion des finances publiques?
En principe, le souhait, c'est que le budget soit en équilibre, Guimaté. Et lorsqu'il y a un déficit, ça pose un problème. Et là, j'ai suivi, dit par l'Institut général des finances, dit par quelqu'un qui a parlé de l'inflation. On peut être en dépassement partant de plusieurs facteurs. Et là, il faut une enquête pour révéler si le dépassement a été dû du fait de la mauvaise gestion ou du fait des imprévus ou du fait des circonstances insurmontables. Et là, ça devient une autre manière de réfléchir, sans que je n'affirme qu'il y a ou qu'il n'y a pas eu mauvaise gestion ou qu'il n'y a pas eu détournement. On ne peut pas aussi activement dire qu'il y a eu détournement ou nier qu'il n'y en a pas eu. Il faut la profondeur de savoir pourquoi ce dépassement, ça vient d'où, ça s'explique comment, mais au moins le regret c'est constaté et par ce dépassement, le budget n'est plus en équilibre.
Voilà, j'ai devant moi beaucoup de réactions de la part des auditeurs et internautes. Et vous sentez que tout le monde, en tout cas je n'ai pas trouvé une réaction, un point de vue qui soutient les propos de M. Gilles Alinguete. Tout le monde réprouve, tout le monde dénonce et fustige les propos de l'IGF Alinguete. Et au-delà de tout soupçon, n'est-ce pas, de détournement des fonds, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique que poserait, n'est-ce pas, toute situation de dépassement budgétaire, Maître Williwanga?
Toute situation de dépassement budgétaire, lorsque ce dépassement est dû au comportement individualiste ou au comportement personnel, c'est-à-dire que lorsque les fonds alloués au dépassement ont été utilisés pour les intérêts personnels des individus, là il y a un sérieux problème d'éthique. Mais là aussi j'ai dit que lorsque activement la Société générale des finances affirme qu'un dépassement n'est pas une mauvaise gestion ou un détournement, peut-être le résultat pourrait arriver à constater qu'il n'y a eu ni détournement ni mauvaise gestion, mais il y a eu des circonstances, mais le dire de manière active au micro, parce qu'il y a une conférence de presse, ça risque de tomber dans le fanatisme, et là, l'honnête qui a parlé de l'apologie risque d'avoir raison, alors que si l'IGF, en toute objectivité, pénétrait la comptabilité de la présidence, trouverait quelque chose peut-être où il y a eu un problème quelque part et dire comment il faut redresser ça, ou carrément ne rien trouver et dire que non. Maintenant, c'est après avoir vérifié que j'ai considéré que quoi qu'il y ait eu dépassement, il n'y a pas eu mésgestion ou il n'y a pas eu détournement. Oui. Donc, ce ne sont pas des réponses à donner activement, mais des réponses réfléchies par rapport à la profondeur d'une enquête, parce qu'il s'agit de fonds, il s'agit de comportements des individus.
Oui, des réponses réfléchies. Et Maître Willy Wenga, en science de l'information et de la communication, il est dit que le contexte est l'un des facteurs qui permettent, n'est-ce pas, de comprendre un message donné. Le contexte politique dans lequel ces propos de M. Jules Alinguette sont tenus n'explique pas tout. Je sais que vous n'êtes pas politique, hein, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut expliquer aussi, on peut donner aussi un sens au message de M. Gilles Alinguetti par rapport au contexte politique du moment?
Bon, vous savez, comme vous l'avez dit vous-même, je l'ai toujours affirmé, moi je ne suis pas politique. Moi j'analyse la situation sur le plan de droit et je préfère me limiter sur le plan de droit parce que dès lors qu'on entre sur le terrain de la politique, on tombe forcément dans les sentiments et les fanatismes.
Voilà, nous allons maintenant écouter les points de vue des auditeurs. Hein. Professeur Jean-Claude Chilumbay, vous allez réagir à la réflexion, n'est-ce pas, de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental.
Bonjour Radio Okapi, c'est l'ingénieur Candelar Kitoko. J'interviens depuis Mbujimayi. Dans ce pays, les lois sont interprétées en fonction de la tendance politique, alors que cette manière d'agir est de détruire complètement l'éducation des filles. Comment peut-on dire que le dépassement n'est pas mauvais? Si on prend juste la signification du mot dépassement, à mon avis, nous sommes en train de se contredire du jour au jour. Depuis qu'il est en fonction, aucune action contre les membres de son parti n'a été engagée et on nous fait croire qu'il y a des saints dans son parti et dans d'autres camps, il n'y a que des démons qu'il faut arrêter. Dommage. Depuis qu'il est là, il fait seulement des spectacles. Aucune somme n'a été retournée dans les trésors publics à part faire des copains.
Professeur Jean-Claude Chilumbay.
D'abord, il faut dire que ça me paraît tout à fait indécent, indélicat et même malsain que l'on dise au micro d'un chef d'État qu'il fait le spectacle. Je crois que ça aurait été bien que notre compatriote qui a toutes les raisons de s'exprimer sur la situation de son pays choisisse des mots qui soient respectables, même s'il ne s'agit pas de parler du chef d'État. Soit. Mais le plus important dans ce que nous disons ici, c'est peut-être une question de compréhension et de se situer dans le contexte du propos de M. Gilles Alinguetti. Personne n'a dit en fait que le dépassement budgétaire, c'est une bonne chose, personne ne l'a dit. Par contre, le dépassement budgétaire, nous tous nous savons qu'il n'est pas bon en termes de gestion, des équilibres nécessaires dans l'exécution d'un budget, mais la difficulté que nous avons ici, c'est de tenir compte de la réalité même de nos économies qui sont des économies encore instables. J'ai noté ici la question des inflations qui parfois obligent. Ici, nous pouvons vivre avec, mais lorsque les missions sont effectuées à l'extérieur du pays, alors qu'en même temps, son budget qui a été adopté en franc congolais a, dans l'effet, bougé, il devient un budget en quelque sorte apparent. Lorsqu'il faut effectuer des missions officielles à l'extérieur du pays, on les effectue en devise. Et lorsqu'on effectue des missions officielles en devise, le poids de ces missions pèse absolument sur le budget de l'État qui était estimé en francs congolais. Et cela ne veut pas signifier que les gens ont eu la volonté de détourner l'argent du trésor. Mais nous disons que tout dépassement n'est pas tout détournement. Tout comme par ailleurs, tout détournement n'est pas forcément tout dépassement. Ici, il faut inscrire le propos de son auteur dans le contexte de ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit qu'il justifiait la présence de la République,
mais il a posé un principe général de gestion des finances publiques en disant qu'il ne faut pas dire forcément que lorsqu'il y a dépassement, il y a détournement de fonds.
Merci, professeur.
Cela vaut pour toutes les institutions du pays et tous les services publics de l'État.
Merci, maître Willy Wenga. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud de Kivu. Quand on utilise les fonds au-delà des prévisions budgétaires, c'est sans doute qu'on est en dépassement budgétaire. Ce qui n'est plus normal, car contrairement à la déclaration de l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguette, il s'agit purement et simplement d'un acte de mauvaise gestion des finances publiques au niveau de la présidence de la République. Je pense que pour éviter cette situation, et la présidence étant dans les besoins permanents des fonds pour son fonctionnement, il faudrait toujours recourir à de nouveaux examens de budget de l'État au niveau de l'Assemblée nationale. Ainsi, la procédure d'utilisation des fonds de l'État serait normal et hors de tout soupçon de détournement ou de la mauvaise gestion des finances publiques à la présidence de la République.
Oui, maître Willy Wenga, comment vous réagissez aux propositions de l'auditeur de Bukavu qui pense que nous devons éviter une telle situation? Il a fait des propositions à ce sujet. Comment vous réagissez à cela?
Alors moi, je pense qu'il faut, voir dans quelle mesure effectivement éviter tout cela. Parce que, vous savez, les dépassements budgétaires, c'est une situation qui arrive, c'est une situation qui passe. Aux gens qui gèrent les finances, de mettre tout en œuvre pour éviter que cela arrive, parce que ce n'est pas toujours bon de parler tout le temps du dépassement budgétaire, sinon ça devient un mode de vie. Ou bien, je proposerais que le Parlement puisse prendre en compte lors de vote du budget prochain, qui est d'ailleurs en étude pour qu'on en discute au Parlement, tous ces cas qu'on a connus et qui ont provoqué les dépassements et qu'on doit intérioriser dans le cadre du budget.
Merci Valérie Madjanga. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui a nous appeler depuis Kalemi dans la province du Tanganyika.
Jean-Pierre Tombouka depuis Kalemi dans la province du Tanganyika. Je pense à mon avis que les déclarations de M. Alinguette n'ont aucun fondement selon la loi, tel qu'elle a dit l'ODEP. L'IGES cherche à couvrir la présidence dans sa gestion financière. À la place du contrôle, il se met à faire des déclarations inutiles en démontrant qu'un dépassement budgétaire n'est pas une gestion. Avec un effectif pléthorique à la présidence, mais aussi des voyages du président, sont à la base de ces dérapages. La présidence doit respecter les crédits budgétaires alloués à son institution pour son bon fonctionnement, mais aussi le Parlement doit se saisir de la question pour limiter ces dérapages. Le peuple congolais n'est pas dupe et est au courant de toutes ces dérives au sommet de l'État.
Oui, M. Valérie Madjanga.
Oui, merci pour la question. J'aimerais dire que nous sommes dans ces cas ici, il y a le principe d'autorisation. Vous voyez, le dépassement budgétaire, nous on ne dit pas que nécessairement c'est mauvais, on ne l'a pas dit. Mais nous disons que le dépassement budgétaire doit être autorisé. Parce que ici, la loi le dit clairement. Si par exemple un service public, parce que ce n'est pas seulement la présidence qui est en dépassement, il y a plusieurs services. Un service public, plusieurs services publics estiment que les crédits leur alloués par le Parlement est insuffisant et qu'il y a des projets ou des programmes d'investissement, il y a d'autres aléas qui arrivent au cours de l'année. On recourt au Parlement pour autoriser, sauf pour les cas d'extrême urgence, tels que les calamités, la guerre, ainsi de suite, et tout ça. Mais ici, le dépassement budgétaire dans les cas échéants, si nous faisons référence à l'article 129, comme je l'avais dit, c'est une faute de gestion parce que on a épuisé les crédits budgétaires. Alors, dans ces cas ici, pourquoi nous nous martelons et nous sommes d'ailleurs en train de militer pour que le dépassement budgétaire soit d'office être constaté comme étant une infraction? Parce que nous avons l'expérience. Depuis 2012, on a toujours exécuté les budgets en dépassement. Vous voyez toutes les institutions. Vous avez la présidence, la primature, et au niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat, et le secrétariat général du gouvernement, vous avez quelques ministères, 13 ou 14, comme ça,
qui exécutent toujours leur budget en dépassement. La conséquence, comme je l'avais dit, c'est que les investissements, il n'y en a pas. Et même en termes de la qualité des dépenses qu'on a effectuées en dépassement, vous sentez que les contenus et puis les dépenses en question ne sont pas celles qui mériteraient en principe d'être utilisées au-delà de la dotation budgétaire. C'est pourquoi nous pensons que l'IGF, en tant qu'organe supérieur de contrôle, ne doit pas faire l'apologie de la mauvaise gouvernance. Si par exemple l'IGF commence à faire l'apologie de la gouvernance, c'est un coup porté contre la lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'au-delà, à côté de l'IGF, qui fait les contrôles administratifs, nous sommes en train de militer pour que la Cour des comptes, qui doit en principe, qui est le juge administratif, qui doit statuer sur les fautes de gestion, puisse fonctionner. Parce que chaque fois, on dépose au Parlement les rapports de la reddition des comptes, on dit que voici telle institution qui a dépassé. Le Parlement ne fait pas les contrôles, ne fait pas les missions d'enquête parlementaire pour comprendre pourquoi tous ces programmes ont été exécutés en dépassement.
Valérie Madianga, vous avez reconnu qu'il n'y a pas que à la présidence où on enregistre des dépassements budgétaires. Hein, vous avez évoqué certains ministères. Il y a aussi certaines institutions politiques. À votre avis, que faut-il pour éviter une telle situation, pour éviter qu'on puisse chaque fois, n'est-ce pas, dénoncer des cas de dépassements budgétaires pour parvenir, n'est-ce pas, à ce que propose Maître Willy Wenga à des budgets en équilibre?
Oui, d'abord, premièrement, il faut qu'on puisse crédibiliser
notre budget. Ça sera votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, notre budget n'est pas crédible parce que, d'abord, on l'élabore sur base des statistiques qui sont erronées. Les vraies dépenses ne sont pas celles qu'on met dans la loi des finances. Ça, c'est un. Il faut commencer par crédibiliser les budgets en mobilisant plus les ressources. Ça, c'est un. De deux, il faut lutter contre la corruption. La vraie corruption pour que toutes les recettes de l'État soient canalisées vers les trésors publics. Troisièmement, il faudrait que toutes les institutions respectent la loi budgétaire. C'est-à-dire, il faudrait que les crédits qui ont été alloués puissent être utilisés conformément au texte. Au cas où il y a dépassement, que le gouvernement revienne au Parlement pour solliciter des crédits additionnels. Et là, nous aurons à respecter le principe d'autorisation préalable conformément à la loi relative aux finances publiques.
Professeur Jean-Claude Tchilumbay, nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez suivi les différentes interventions. Un dépassement budgétaire n'est jamais quelque chose de souhaitable parce que ça a d'une manière ou d'une autre des incidences, n'est-ce pas, sur d'autres services, sur notamment les investissements publics. Alors, pour éviter ce genre de situation, qu'est-ce que vous proposerez? Ça sera aussi votre conclusion.
La solution, c'est ce qui a commencé à être fait. La mobilisation des recettes doit être à la hauteur des besoins de consommation et de la dépense. Il faut aussi, à un moment donné, améliorer la qualité de la dépense, de ce qui est en train d'être fait, notamment dans le travail ô combien louable que réalise l'IGF. Il faut que d'autres institutions, d'autres structures de lutte contre la corruption se mettent rapidement en place. C'est ce que le chef de l'État a notamment promis. En ce qui concerne la mise en place des animateurs de la Cour des comptes, ça va être bientôt là fait pour que la dépense reflète réellement la qualité et les capacités de notre ou de nos mobilisations des recettes. C'est en train d'être fait et que le rythme actuel le démontre par ailleurs. Nous sommes en train de franchir des caps qui n'ont jamais été franchis dans plusieurs domaines, qu'il s'agisse du domaine d'assurance, du domaine des structures para-étatiques. Eh bien, c'est aussi là le cas de louer, de féliciter et d'encourager ce qui est en train de se faire.
Merci. Maître Willy Wenga, votre conclusion?
L'unique manière d'éviter tout cela, c'est que l'Assemblée nationale devra prendre en compte tout ce qui a été comme événement et a conduit au dépassement du budget de la présidence de la République. Et même de toute façon, dans d'autres secteurs, vous savez, avec la situation de travers de la République, tout ce qui est démocratie, tout ce qui est un mouvement du chef de l'État au sein de la République, mais j'ai plus en compte dans le vote du budget pour la nouvelle année 2022. Comme ça, on essaiera de mettre le budget en équilibre. J'insiste beaucoup sur le fait que la meilleure manière de terminer une année budgétaire, c'est de terminer avec un budget équilibré
et non un millier déficitaire.
Merci à vous, professeur Jean-Claude Tulumbay, à Valérie Madianga et à Maître Willy Owenga d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à William Lungamba et Paul Badjanyama qui étaient à la technique. Merci aussi à Kéline Kouté et Donat Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.